BW. Vue d'Allemagne.
Le mouvement des Gilets jaunes souffle sa première bougie. Depuis un an, il manifeste chaque samedi sur les ronds-points et les grandes villes de France. Klaus Josten suit de près ce mouvement aux multiples facettes qui base son action sur la démocratie directe. Nous verrons aussi avec lui pourquoi les Gilets jaunes ont eu peu d'écho en Allemagne. Dans la deuxième partie de ce magazine, on vous emmène en Tunisie pour un spectacle exceptionnel, l'Opéra Bouxtile, un projet tuniso-allemand qui réunit des collégiens et des musiciens d'orchestre des deux pays. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue. Le 17 novembre 2018, plusieurs milliers de Français mobilisés via les réseaux sociaux bloquaient les ronds-points et axes routiers autour des agglomérations et défilaient dans les villes, ici à Paris, pour protester contre l'instauration de la taxe écologique annoncée par le gouvernement. Un premier samedi de contestation baptisé Acte 1 des Gilets jaunes. Le gilet de visibilité de couleur jaune fluo que chaque automobiliste doit avoir dans sa voiture en cas de danger est devenu le signe de ralliement d'un mouvement social d'un nouveau genre en France. Non pas fédéré par des syndicats ou organisations professionnelles, les Gilets jaunes ont été dès le départ un rassemblement hétéroclite de groupes dispersés sur tout le territoire, essentiellement dans les zones dites périurbaines. À Paris et dans les grandes villes, des affrontements souvent violents ont lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre, provoquant des blessés des deux côtés. Nous avions parlé dans un précédent numéro de Vue d'Allemagne de l'usage excessif des flashballs LBD et des grenades de désencerclement, des violences policières dénoncées jusqu'à l'ONU. Selon le collectif militant Désarmons-les, 24 personnes ont perdu un œil dans les manifestations depuis le 17 novembre 2018. 5 ont eu la main arrachée. Les contestataires les plus déterminés se réunissent pourtant encore chaque samedi depuis un an et à certains endroits on est déjà passé à la prochaine étape, celle d'une autre forme de démocratie directe. C'est ce dont nous allons parler entre autres avec Klaus Josten. Il est auteur, deux fois lauréat du prix franco-allemand du journalisme et ancien chargé des programmes de la chaîne franco-allemande Arte. Et il commence par expliquer les origines du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé bien avant le 17 novembre 2018.
La préparation depuis janvier 2018, c'était quelque chose de droite et de l'extrême droite. Il y avait des groupes en colère depuis janvier et plus tard, à partir du mois d'octobre peut-être, c'est une certaine gauche, plus radicale, qui se sont mis. Et c'est comme ça que des gens, comme par exemple ceux d'ici à Commercy, où je me trouve aujourd'hui avec vous en conversation, sont allés dans les ronds-points pour exprimer avec des gens qui venaient même de droite le même mécontentement avec la situation pour beaucoup de gens en France assez catastrophique.
À quel moment il y a eu une convergence des luttes avec aussi les préoccupations écologistes? Parce qu'on a eu au début un mouvement de protestation qui était parti de la taxe sur le diesel et finalement se sont ralliés des militants écologistes aussi au mouvement des Gilets jaunes.
Il n'y avait aucune contradiction sur des choses qui, quand on ne les manipule pas, parce que vous savez que cette taxe diesel, etc., c'était pour arranger les choses au niveau pécuniaire pour le gouvernement français qui avait arrêter la taxe des riches, comme elle était appelée par les contestataires.
Et
donc, voilà, cette taxe-là, ce n'était pas contesté parce que c'était une taxe écologique, c'était une taxe qui exprimait le ras-le-bol des gens qui, à la campagne surtout, parce que le mouvement est parti de la campagne surtout, il y a énormément de gens qui font 30, 40, 50 km par jour pour arriver à leur lieu de travail, qui ne savaient plus comment vivre la fin du mois, comme on disait en France. Et cette convergence, elle s'est manifestée la première fois le 16 mars à Paris, dans une manifestation en commun qui est peut-être le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie sociale.
Qu'est-ce qu'a apporté ce mouvement des Gilets jaunes pour le peuple français?
Ils ont inventé une manière de s'adresser au peuple, c'est-à-dire ils fonctionnent à partir de quelque chose qu'ils appellent une assemblée. Aujourd'hui, en fait, les 30 ans de la l'unification allemande, on ne fête pas les 100 ans de la révolution allemande en 19. Là, les gens se sont retrouvés au niveau communal dans des rêtes en allemand. C'est des assemblées. Et cette idée de l'assemblée, elle a été reprise à Commercy, ici en Lorraine, dans une petite ville de 6000 habitants. Ils ont construit une cabane, comme dans d'autres lieux en France, qui ont tous été détruits avec le temps, d'ailleurs, où ils se sont retrouvés tous les soirs à 70, 80, 90 personnes qui ont démocratiquement discuté et décidé sur ce qui devait y avoir le lendemain. Cette idée d'une nouvelle démocratie directe, elle va être apportée jusqu'au communal, ici à Commercy. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on le fait. Ça existe déjà à Saillant dans la Drôme depuis 5 ans. Ça va exister à Commercy à partir de maintenant, qu'il va y avoir une liste communale de citoyens. C'est ce qu'ils vont faire. C'est de ne pas seulement faire une liste et entrer dans le conseil municipal, mais ils gardent le principe de l'Assemblée citoyenne à l'extérieur qui dictera le futur dans le conseil municipal, que les membres du conseil municipal seront obligés d'adopter ce qui a été décidé à l'extérieur par l'Assemblée de chaque ville.
Comment se fait-il que le mouvement des Gilets jaunes n'ait pas du tout pris en Allemagne ? Il y a eu des tentatives au début, et puis ça s'est, on n'a pas eu vraiment de mouvement citoyen qui a émergé.
Vis-à-vis des Gilets jaunes, il y avait une hostilité médiatique très très vite. Les journalistes allemands ont certainement pas pu avoir tous et toutes la possibilité de vérifier les informations. Par contre, j'ai rencontré des Gilets jaunes de Strasbourg, par exemple, qui ont très très parfaitement fonctionné avec des gens de l'autre côté du Rhin. Il y a eu une occupation du pont de Kehl, par exemple. Il y a eu des groupes de Gilets jaunes à Stuttgart, à Karlsruhe. Stuttgart est très intéressant par rapport à la question de la diesel, qui est discutée en Allemagne aussi fortement, parce que c'est le siège de grands producteurs de voitures diesel aussi, de Mercedes. Et il y a eu à Berlin aussi. Mais je crois qu'en principe, en Allemagne, le message de Gilets jaunes n'est pas arrivé parce qu'on a très très vite criminalisé le mouvement. Et finalement, le message, le vrai message des Gilets jaunes, il n'est pas arrivé en Allemagne.
C'est quoi le vrai message des Gilets jaunes ?
Moi, je pense que c'est une histoire entre l'écologie et, premièrement, sociale, qu'on ne peut plus vivre dans un monde où les richesses sont tellement injustement reparties et que vous avez en Allemagne un phénomène dont on me dit « oui, on s'est adapté à l'agenda 2010 de Schröder ». On s'étonne un peu en Allemagne qu'en France, on commence maintenant à penser à des restrictions au niveau du chômage, pour les retraites, etc., auxquelles les Allemands se sont trop facilement adaptés, à mon avis. Et les conséquences dans la pauvreté, qui a certainement augmenté en Allemagne depuis Schröder, et maintenant la page qui est en train de s'exécuter en France. Et en Allemagne, on n'a pas voulu voir les Warnwesten, comme je l'ai traduit.
C'est les gilets qui préviennent du danger, hein. c'est comme ça la traduction.
Exactement, parce qu'au fait, dans les voitures allemandes, il n'y a pas de gelben Westen, il y a Warnwesten, et les Warnwesten s'avertissent devant un monde, à mon avis, qui va droit au mur. Le moment où les Allemands vont se réveiller, ça va craindre pour le capitalisme. Et je crois que c'est une leçon du mouvement des gilets jaunes, et de tous ces mouvements sociaux qui sont en train de se développer dans le monde entier, c'est qu'il y a une forte critique anticapitaliste qui a pris un impact énorme. Et je crois que ce n'est que le début d'un mouvement mondial, français et peut-être allemand aussi, bientôt.
Merci à Klaus Josten pour cet entretien sur les Gilets jaunes. Et pour les germanophones parmi vous, vous pourrez entendre un reportage grand format sur les assemblées populaires à Commercy, un documentaire réalisé pour la chaîne Deutschlandfunk qui sera diffusé le 19 novembre à 19h15.
France, tu n'es pas ma mère et je ne suis pas ton fils. Pour moi, tu n'es qu'une frontière de plus.
Vive la France,
aïe. Oui, mais laquelle la France n'est pas toujours sur l'aide de la bande de calme, t'es
France. Liberté,
égalité,
fraternité.
Oui, mais pour qui ?
Des fois,
j'ai l'impression qu'on n'habite pas le même pays.
Bleu, blanc ou rouge,
mais pour ton plus grand malheur,
elle change de couche,
elle a de toutes les couleurs.
Vous écoutez toujours Vue d'Allemagne et on quitte la grogne sociale pour laisser maintenant la place au spectacle. C'est un quartier résidentiel et défavorisé. Il est situé à la périphérie de Tunis et à la lisière des espaces ruraux dans la banlieue nord-ouest de la ville, région de Manouba. Comme souvent dans les quartiers périurbains, les constructions inachevées sont légion. Mais ce soir, les habitants sont tous enthousiastes. Une immense tente est dressée sur un terrain vague. C'est la scène de l'opéra de quartier. Pendant des mois, les enfants du quartier ont appris à chanter, à danser, commencer à jouer des instruments. Les parents ne sont pas peu fiers d'assister à l'Opéra Boustil, une coopération entre l'Orchestre Philharmonique de Brême et l'Orchestre National Tunisien. Le projet est soutenu par le ministère allemand des Affaires étrangères et le ministère tunisien de la Culture. Les privés ont aussi mis la main à la poche, la Fondation Kamel Lazar, une ONG qui promeut la culture comme vecteur d'inclusion sociale. Les discours des officiels laissent le public presque indifférent. Ce soir, ce sont les enfants qui sont les stars, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Mohamed Haddad.
Derniers essais avant le début du spectacle. Nous sommes à Boustil, une cité modeste de la banlieue de Tunis. Dans quelques minutes, commence l'opéra Boustil, du nom de ce quartier. Ce n'est pas un opéra comme les autres. Cette expérience est inspirée de l'Opéra Philharmonique de Brême, une ville au nord-ouest de l'Allemagne. Avant de monter sur scène, Barbara Rucha, la chef d'orchestre, nous explique la particularité. Comment ça se fabrique un opéra de quartier ?
Ici, l'opéra quartier, c'est quelque chose qu'on crée pour le moment. C'est fait par les gens du quartier, pour les gens du quartier. Et la musique qu'on choisit, c'est la musique qui va plaire aux gens. Et c'est les gens qui participent. Donc, ils font les costumes, ils écrivent les textes, ils dansent, ils chantent eux-mêmes sur scène.
Cet orchestre est un mélange tuniso-allemand. L'Orchestre symphonique tunisien s'est beaucoup impliqué dans la vie locale, ici. Il a donné des cours de musique aux enfants, leur a offert des instruments. Des jeunes de ce quartier ont également été reçus lors d'un spectacle à Brême, en Allemagne. À la Manouba, le public, plusieurs centaines de personnes, est à l'image du quartier. Des familles entières s'y retrouvent, avec bébés, grands-parents, amis. La rencontre entre l'orchestre de Brême et la Tunisie s'est faite il y a 5 ans, grâce à Amel Karboul, ministre du Tourisme, en 2014. Elle a assisté par hasard à un spectacle de l'opéra de quartier et a voulu dupliquer cette expérience en Tunisie. La suite de l'histoire est racontée par le directeur de l'opéra de Brême, Albert Schmidt.
Alors pourriez-vous le faire en Tunisie ? Pourriez-vous le faire dans mon pays ? Parce que nous sommes désespérément à la recherche d'offres qui nous aideraient à soutenir le pays pour qu'il devienne une démocratie solide. Et il avait tout à fait raison, parce que cela renforce les personnalités, cela renforce les individus, la responsabilité, le courage dans la vie, et ce sont des caractéristiques dont on a besoin pour rendre une démocratie forte.
Sur scène, une vingtaine d'enfants déguisés tout en noir, avec des couleurs sombres, sont en train d'entourer un monstre qui est fait de toile et qui est gonflé par de l'air. Un monstre qui monte sur 3 mètres au-dessus de la scène, il tourne autour de lui. La musique est un peu anxiogène et ce monstre est sorti d'une jarre. Cette jarre qui était au centre de la scène au début du spectacle se trouve désormais sur le côté. Dans cette jarre, il y avait quelque chose de surprise, d'inconnu, que les gens ne connaissaient pas. Et en réalité, c'était tous les mots qu'il y a dans chacun d'entre nous, chacun au sein de ce spectacle. Et là, les gamins arrivent au bout de ce monstre et ils l'ont détruit. Que ce soit sur scène ou dans la vie réelle, cette expérience a changé la vie de nombreux enfants. Une maman dont la fille a participé à la chorale raconte cette métamorphose.
Ma fille participe aux activités depuis l'année dernière. C'est devenu quelqu'un d'autre. Elle est radieuse, elle a confiance en elle. C'est le plus important que j'ai vu.
Après la fin du spectacle, nous retrouvons Yasmine, 16 ans, une jeune fille en larmes qui faisait partie de la chorale.
Les répétitions étaient tellement bien. Là, c'est le spectacle. Le public nous regarde, mais avant d'en arriver là, il y a eu de si belles choses, de beaux souvenirs. Je veux vraiment leur dire merci. Sans les organisateurs, on ne serait pas debout ici.
Cette gratitude va entre autres à Intisar Saadewi. Elle a encadré les jeunes chanteurs de la chorale et elle aussi, elle est fière d'eux.
C'est un grand effort pour eux, surtout d'apprendre par cœur la partie en allemand. C'est pas facile du tout. C'est une langue totalement nouvelle pour eux. Ils ont été assidus pendant les week-ends et les vacances. Le résultat a été là, sur scène, je suis fière d'eux.
Kamel Lazar, un financier tunisien qui a fait fortune en Suisse et l'un des bailleurs de fonds de cette initiative, voit déjà plus loin.
C'était un rêve. C'est exceptionnel les efforts que toutes les équipes ont fait pour faire en sorte que ce jour arrive, où on peut voir que grâce à un partenariat de qualité, avec des talents et avec une sincérité et un engagement, on peut faire des petits miracles. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui ici. L'inclusion sociale, grâce à l'art et la culture et la musique, c'est phénoménal. Il faut que cette expérience continue et ça, si c'est possible, ça se réalise à d'autres villes en Tunisie, que ça devienne un vecteur de ce qu'on appelle de l'inclusion sociale et développement de nos jeunes.
Au quartier Boustil de la Manouba, Mohamed Haddad pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Cette semaine, la bande originale était assurée par le groupe Babylon Circus. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
Pour toi, courir, c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions. Que t'es grand, petit d'homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles. Comme une religion, petit homme. Bonne